Nous avons évoqué dans notre cantique ce désert et ce chemin dans le désert. Je ne connais pas personnellement ce qu'est un désert dans la pratique, mais peut-être quelque chose d'un peu ressemblant par certains côtés. Ce que je connais un peu, c'est l'hiver avec la neige dans nos régions, où tous les chemins sont masqués par la neige qui couvre tout, et où selon qu'il y a du brouillard, où on voit ou on ne voit pas très loin. Et si on évoque cela, ça peut nous donner un peu des idées de à quoi peut ressembler un voyage, une traversée dans le désert. Et je voudrais lire d'abord dans le livre des Nombres, au chapitre 10, au début de ce voyage dans le désert. On peut peut-être juste d'abord lire au premier chapitre du Deutéronome un verset Deutéronome 1, verset 2. Il y a 11 journées depuis Horeb, par le chemin de la montagne de Séir, jusqu'à Kadesh Barnéa. 11 journées de voyage. Non pas un chemin au fond très long. Alors, Nombre 10, verset 11. Il arriva en la seconde année, au second mois, le 20e jour du mois, que la nuée se leva de dessus le tabernacle du témoignage, et les fils d'Israël partirent du désert de Sinaï selon leur ordre de départ, et la nuée demeura dans le désert de Paran. Et ils partirent pour la première fois selon le commandement d'Éternel par Moïse. La bannière du camp des fils de Juda partit la première, selon leurs armées, et son armée était sous Nakhson, fils d'Aminadab. Et l'armée de la tribu des fils d'Issacar était sous Nethanéel, fils de Tsuar, et l'armée de la tribu des fils de Zabulon était sous Eliab, fils de Hélon. Et le tabernacle fut démonté, puis les fils de Gershon et les fils de Merari partirent, portant le tabernacle. Et la bannière du camp de Ruben partit selon leurs armées, et son armée était sous Elitsur, fils de Shedéur. Et l'armée de la tribu des fils de Simon sous Selumiel, fils de Tsurishadai. Et l'armée de la tribu des fils de Gad était sous Eliasaph, fils de Deuel. Puis les Kéatites partirent portant le sanctuaire. Et on dressa le tabernacle en attendant leur arrivée. Et la bannière du camp des fils d'Éphraïm partit selon leurs armées. Et son armée était sous Elishama, fils d'Amiaud. Et l'armée de la tribu des fils de Manassé était sous Caméliel, fils de Pédatsur. Et l'armée de la tribu des fils de Benjamin était sous Abidan, fils de Guidoni. Et la bannière du camp des fils de Dan partit à l'arrière-garde de tous les camps, selon leurs armées. Et son armée était sous Akiezer, fils d'Amishadai. L'armée de la tribu des fils d'Aézer était sous Pagiel, fils d'Ocran. L'armée de la tribu des fils de Nephtali était sous Akira, fils d'Enan. Tel fut l'ordre de marche des fils d'Israël selon leurs armées, et ils partirent. Je m'arrête un instant là. Donc on est au bout de la deuxième année, au début de la deuxième année dans le désert, après la sortie d'Égypte. Première année qui a été passée en Horeb, avec comme fait marquant, déjà le chemin depuis la mer Rouge jusqu'à Horeb, chapitre 16 du livre de l'Exode, avec dès le début des murmures et la fidélité de Dieu qui répond. Puis l'arrivée à Horeb, je passe des détails, il y a eu la faim, il y a eu la manne, qui a donné réponse de Dieu à cette faim. Et puis, là, il y a les instructions que reçoit Moïse pour construire le tabernacle. Et pendant que Moïse reçoit ces instructions, il y a le veau d'or. Où c'est un temps d'arrêt et où on a si on peut dire, la deuxième grande manifestation de la grâce de Dieu vis-à-vis de son peuple. La première étant de les avoir fait sortir d'Égypte, et comment il les avait sortir d'Égypte. Alors qu'ils avaient entendu les commandements de la loi, qu'ils avaient dit tout ce que l'Éternel a dit, nous le ferons, il y a eu le veau d'or qui était la transgression du premier commandement. Et pourtant, Dieu use de grâce et est prêt à continuer le chemin avec eux, à les mener jusqu'à ce chemin en Israël, pays promis. Et donc, le reste de cette année à Horeb se passe dans la construction du tabernacle. Et le livre des Nombres commence au début de cette deuxième année, avec là, au second mois, le 20e jour du mois, la nuée qui s'ève pour partir. Et alors là, dans ces premiers versets, il y a une expression que je voudrais retenir. Les fils d'Israël, verset 12, les fils d'Israël partirent du désert de Sinaï selon leur ordre de départ. Et au verset 13, selon le commandement de l'Éternel par Moïse. Et la suite des versets qu'on a lu nous donne cet ordre de départ qui est repris ailleurs et qui est lié directement à l'organisation du camp autour du tabernacle. Quand il nous est parlé de la bannière du camp de Juda, c'est un groupe de trois tribus. Chaque fois, on a quatre fois la bannière, verset 18, la bannière du camp de Ruben. Ce sont les quatre groupes de trois tribus qui se retrouvent sur les quatre points cardinaux autour du tabernacle dans le campement. Chaque groupe avec trois tribus désignées par leur nom. Et là, dans la liste, il nous est chaque fois dit qui avait le commandement de ce qui est appelé l'armée de chaque tribu. Et au milieu, dans le campement, le tabernacle. Et puis, un ordre qui nous est donné ailleurs sur la manière dont il fallait démonter et remonter le tabernacle. Avec le travail qui était, dans le début, dans les chapitres précédents de Livre des Nombres, le travail qui était réparti entre les trois familles de la tribu de Lévi, Gershon, Merari et Kehath. Les trois familles, les Kehathites s'occupant du lieu saint, du lieu très saint, les Merarites et les Gershonites s'occupant de ce qui était le parvis et tous les ustensiles, si on peut dire, visibles du tabernacle. Et il y a cet ordre de marche avec un premier camp qui part, suivi par le tabernacle, donc les parties visibles, suivi par la tribu de Ruben, par le camp de Ruben, donc les trois tribus associées à Ruben, suivi par ce qui concerne le contenu du lieu saint, du lieu très saint, porté, ça nous est précisé aussi, par les sacrificateurs eux-mêmes, porté à bras d'homme, sur le dos, sur les épaules, par des barres, non pas porté sur des chariots, non pas porté par des animaux, porté par les sacrificateurs eux-mêmes. Et puis après, les deux dernières bannières, les six autres tribus qui suivent, avec pour la dernière, une expression, la bannière du camp des fils de Dan, partir à l'arrière-garde de tous les camps. Alors est-ce que c'est littéralement le sens du mot arrière-garde qu'on donne dans la terminologie militaire aujourd'hui, ou si c'est simplement pour marquer que c'était les derniers qui fermaient la marche, peu importe, dans un sens, c'était les tribus qui terminaient ce convoi et qui marquaient que voilà, tout le camp est passé. Quand ces trois tribus étaient passées, tout Israël était passé. Et puis pareil à l'arrivée, au fur et à mesure qu'ils arrivaient, Merari et Gershom arrivant, ils construisaient le parvis, ils construisaient le tabernacle, ils mettaient en place l'autel d'airain, les choses extérieures, pour que tout soit prêt quand les Kéatites arrivaient avec tout le contenu, l'autel d'or, le chandelier, la table des pins, l'arche, tout ce qui devait être mis dans le tabernacle. Et ça c'est appelé, on l'a lu, l'ordre de départ qui était donné par Dieu. Dieu n'avait rien laissé au hasard. Alors maintenant, on continue la lecture. Et Moïse dit à Hobab, fils de Réuel, Madianite, beau-père de Moïse, « Nous partons pour le lieu dont l'Éternel a dit, « Je vous le donnerai. Viens avec nous, et nous te ferons du bien, car l'Éternel a dit du bien à l'égard d'Israël. » Et lui dit, « Je n'irai pas, mais je m'en irai dans mon pays et vers ma parenté. » Et Moïse dit, « Je te prie, ne nous laisse pas, parce que tu connais les lieux où nous aurons à camper dans le désert, et tu nous serviras Dieu. » Et il arrivera, si tu viens avec nous, que le bien que l'Éternel veut nous faire, nous te le ferons. Alors on a là ce petit paragraphe dont on ne sait pas la conclusion. On ne sait pas ce que Hobab a fait au final. Est-il venu, n'est-il pas venu, on n'en sait rien. Mais on voit là comme un petit, comme je dirais, un caillou dans le chemin. Mais on peut comprendre Moïse en même temps. Je le dis avec tout le respect qu'il faut pour Moïse dans son service. Mais en même temps, quel service ? Conduire de la part de Dieu ce peuple avec devant lui ce désert, plein d'inconnus. Il y a déjà eu un combat contre Amalek. Il y a devant eux des nomades, des pays qui vont devoir traverser, où il y a des gens qui habitent, pour arriver en Canaan, qui est un pays occupé par des peuples que l'Éternel a jugés, a déjà jugés, à qui il va ôter le pays pour le leur donner. Et il y a là un chemin plein d'inconnus. Et Moïse, qui pourtant a été 40 ans, je dis pourtant, mais qui en même temps, qui a l'expérience d'avoir été 40 ans dans le désert avec les troupeaux de son beau-père, il sait ce que c'est le désert, lui. Et il fait appel, disons-le directement, à un bras de chair pour avoir de l'air, de l'aide. Il voit bien le chemin qu'il a devant nous. Viens avec nous. Tu connais les lieux où nous aurons à camper dans le désert. Tu nous serviras Dieu. Je ne pense pas qu'on puisse dire qu'il y a des doutes chez Moïse. Non, il n'y a pas de doute. Moïse a marché par la foi jusque-là et sa foi n'a pas faibli. Mais peut-être qu'il y a tout bêtement trop de pragmatisme. Oui, le désert, c'est ça. Il faut connaître le désert pour savoir où sont les points d'eau, pour savoir où camper, pour savoir où passer. Un guide, c'est jamais inutile. Quelqu'un qui connaît tous ces endroits, c'est jamais inutile. J'appelle ça trop de pragmatisme. Parce que quelque part, à cet instant-là, est-ce que Moïse n'est pas en train de regarder autour de lui le désert, au lieu de regarder la nuée et de regarder, de se souvenir, fin du dernier chapitre du livre d'Exode, comment la gloire de l'Éternel a rempli le tabernacle. Cette nuée est signe de cette présence de Dieu au milieu du peuple. Regardez à celui qui, du ciel, a manifesté qu'il était là, au milieu du peuple, au milieu du camp, et pour guider la marche. Et il regarde au désert, et il voit Hobab, qui connaît le désert, et il demande. Et il demande de l'aide humaine. Et c'est quand même remarquable que la dernière réponse d'Hobab ne nous est pas donnée. Par contre, verset 33, « Ils partirent de la montagne de l'Éternel, le chemin de 3 jours, et l'arche de l'Alliance de l'Éternel alla devant eux, le chemin de 3 jours, pour leur chercher un lieu de repos. Et la nuée de l'Éternel était sur eux de jour, comme ils partaient, quand ils partaient de leur campement. Et il arriva qu'au départ de l'arche, Moïse disait, « Lève-toi, Éternel, et que tes ennemis soient dispersés, et que ceux qui te haïssent s'enfuient devant toi. » Et quand elle se reposait, il disait, « Reviens, Éternel, aux 10 000 milliers d'Israël. » On devrait partager ce paragraphe en 2 paragraphes. On a 2 choses très nettement différentes dans ce paragraphe. On a d'abord Le premier verset, verset 33, qui au fond est la suite du paragraphe précédent. On ne sait pas que ce qu'a fait Hobab, mais on sait ce que Dieu a fait. Ils partent et l'arche de l'alliance de l'Éternel alla devant eux. Mais on a vu l'ordre de marche. Verset 21, les Kéatites partirent portant le sanctuaire. L'arche de l'alliance, c'était les Kéatites qui la portaient par les barres, qui était enfilée dans ses anneaux sur les côtés de l'arche. Et elle était enveloppée avec les rideaux du tabernacle. Elle marchait au milieu du camp en marche. Il y avait devant eux, devant l'arche, Judas et les deux tribus associées, Ruben et les deux tribus associées. Il y avait le reste du tabernacle devant, puis seulement l'arche. Maintenant, là, il nous est dit, l'arche de l'Alliance éternelle alla devant eux le chemin de 3 jours pour leur chercher un lieu de repos. En image, on peut dire que c'est Dieu qui répond directement à la question de Moïse à Hobab. Et c'est comme si Dieu disait, mais Moïse, je suis là pourquoi ? La nuée, l'arche, la gloire dans le tabernacle, c'est bien signe que je suis là. Ben voilà, je vais te montrer le chemin. Pourquoi tu t'inquiètes d'avoir besoin d'un guide ? Je vais te montrer le chemin. Et l'arche marche devant le camp pour chercher un lieu de repos. Et ce mot de repos est très beau dans le contexte du désert. Le désert n'est pas un lieu de repos. On a des passages qui nous décrivent le désert, un lieu où on a soif, un lieu aride, altéré, sans eau, des psaumes qui évoquent ce côté-là. Mais non, l'arche marche le chemin de 3 jours devant le peuple pour leur chercher du repos. Et c'est comme si l'Éternel disait à Moïse, « Mais souviens-toi, je suis là. C'est moi qui vais te guider. » Et alors on a les 3 versets suivants, qui rappelle la nuée, la manière dont Dieu montrait. On peut relire peut-être juste, ça doit être la page précédente. Oui, à partir du verset 15, je ne vais pas lire tout. Le jour que le tabernacle fut dressé, la nuée couvrit le tabernacle d'attente du témoignage. Elle était le soir sur le tabernacle comme l'apparence du feu jusqu'au matin. Il en fut ainsi continuellement. Verset 17, selon que la nuée se levait de dessus la tente, après cela les fils d'Israël partaient, et au lieu où la nuée demeurait, là les fils d'Israël campaient. Un peu plus loin, verset 19, si la nuée prolongeait sa demeure sur le tabernacle plusieurs jours, alors les fils d'Israël gardaient ce que l'Éternel leur avait donné à garder et ne partaient pas. Etc. Et la suite nous présente toutes sortes de situations avec la nuée qui était l'indicateur de ce qu'utilisait l'Éternel pour dire à Moïse et au peuple ce qu'il s'agissait de faire. Et là, on a au fond dans les versets suivants, verset 34, « Et la nuée de l'Éternel était sur eux 2 jours quand ils partaient de leur campement. » Et la réponse de Moïse dans ces 2 versets, c'est au fond Moïse qui a compris la réponse de l'Éternel. Il arrivait qu'au départ de l'arche, Moïse disait « Lève-toi, Éternel, et que tes ennemis soient dispersés et que ceux qui te haïssent s'enfuient devant toi. » C'est comme tu disais, Éternel, « Voilà, tu vas nous montrer le chemin, la nuée s'est levée, nous allons partir. Ben voilà, tu ouvres le chemin devant nous. Ouvre le chemin devant nous, c'est toi seul qui peux nous guider. Et tu vas nous ouvrir le chemin devant nous. » Et disperser les ennemis et ôter les obstacles. Et puis pareil, quand elle se reposait, il disait, « Reviens, Éternel, aux 10 000 milliers d'Israël. » C'est comme si, une manière de dire, « Voilà, reviens au milieu du camp, au milieu de nous, être présent comme tu l'as promis au milieu de nous. » Et puis alors, je voudrais juste dire encore, pour terminer, dans l'évangile de Jean, Chapitre 14, et je vais faire ce qu'il ne faut pas faire, je vais commencer en plein milieu pour revenir à ce qui est avant, après. Je vais commencer en plein milieu. Verset 4, Jean 14, verset 4. « Et vous savez où moi je vais, et vous en savez le chemin. » Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin ?» Et Jésus lui dit, « Moi je suis le chemin et la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » J'ai commencé en plein milieu parce que je devrais voir d'abord la question de Thomas et la réponse du Seigneur. Thomas avoue franchement que « Seigneur, il y a plein de choses que tu as dit que je n'ai pas compris. » Tu évoques là de t'en aller, mais où vas-tu? Et puis tu lui dis que nous connaissons le chemin, mais comment connaîtrions-nous le chemin? Comment pouvons-nous savoir le chemin? Nous ne savons pas où tu vas, comment connaître le chemin? Voilà. Mais c'est quelque part là dans cette intervention de Thomas, un encouragement pour nous de dire nos questions au Seigneur. Je ne comprends pas. Seigneur, je ne comprends pas. Tu as dit ceci, tu as dit cela, je ne sais pas quoi en faire. Et alors le Seigneur répond. Et la réponse du Seigneur est très condensée. C'est vraiment du concentré de concentré, ce qu'il dit. C'est quelque chose, ce verset 6, on peut s'y arrêter et le lire et le relire. Et toujours y trouver quelque chose. Et en rapport avec toutes sortes de circonstances, revenir à ce verset et y trouver des bouts de réponse dont on a besoin pour continuer le chemin, justement. Jésus lui dit, « Moi, je suis le chemin. » Lui, Jésus, est le chemin. Et puis, il n'est pas que le chemin. Il est associé à ce chemin la vérité et la vie. Je relisais ces jours-ci dans un livre, j'ai passé en revue le mot de vérité à travers la parole, la notion, entre autres, ce n'était pas le sujet, mais il évoquait tout ce qui nous est dit sur la vérité. C'est d'une richesse. Ta parole est la vérité. L'esprit de vérité. Le Dieu de vérité. Le véritable. Là, je suis la vérité, Jésus. Le mot « vérité » est un mot qu'on utilise assez facilement, avec un sens pas très clair. Ça peut aussi bien vouloir dire quelque chose de très formel, une liste de préceptes, que quelque chose de très flou. Les hommes ont bien ce dicton, chacun sa vérité. Mais la parole nous oriente sur des choses vastes et en même temps précises. Jésus, la parole, Dieu lui-même, l'Esprit Saint. Et puis, encore, chacun peut regarder ça pour lui-même. Mais on a là tout un quelque chose d'infini qui est ouvert par ce mot-là, qui vient après le mot de chemin. Le chemin, c'est là où je vais marcher, et dans ce chemin, je vais apprendre des tas de choses. Et le but du chemin, on l'a après, mais d'abord il y a la vie. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Quelqu'un qui est mort ne peut plus marcher sur le chemin, ou ne peut pas marcher sur le chemin. Quelqu'un qui dort, c'est quelqu'un qui ne réagit pas à grand-chose. Il faut parfois secouer le dormeur très fort pour le réveiller. En tout cas, tant qu'il dort, il ne marchera pas sur le chemin. La vie, au contraire, c'est synonyme d'agir, d'avoir une relation, des relations, d'avoir un but, d'avoir aussi des luttes. Le chemin, marcher dans le chemin, c'est bien, si je marche dans le chemin, c'est bien que je suis en vie. Et si je marche dans ce chemin-là, c'est bien que c'est la vie de Christ qui agit. Je fais qu'effleurer dans ce que je dis là, je fais qu'effleurer ces versets. Il y a bien d'autres choses qu'on peut dire. Mais voilà, demander à un quelconque obab qui connaît le désert de l'aide, alors qu'il y a la nuée et l'arche, le tabernacle, c'est un peu dommage. Chercher le chemin, ben voilà, on a le chemin. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Et alors Thomas, il demande, mais nous ne savons pas où tu vas. Et la réponse, on l'a. Nul ne vient au Père que par moi. Le chemin, c'est aller au Père. C'est aller à lui. Et alors, on peut relire le début de ce chapitre. Que votre cœur ne soit pas troublé. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures, il y a beaucoup de place. S'il en était autrement, je vous l'aurais dit, car je vais vous préparer une place. Et si je m'en vais et que je vous prépare une place, je reviendrai et je vous prendrai auprès de moi, afin que là où moi je suis, vous, vous soyez aussi. Et vous savez où moi je vais et vous en savez le chemin. Voilà, des places préparées. Le Seigneur qui a promis à la fois de préparer ses places, mais pas seulement cela, mais aussi de revenir nous chercher pour que nous soyons là où il est. Il évoquera la même chose dans Jean 17 en faisant cette demande, que nous soyons avec lui, que nous soyons avec, là où il sera. Et puis pour le chemin qui est maintenant en route, en attendant ce moment où lui viendra à notre rencontre, si on peut dire, ben il y a cette ressource, moi je suis le chemin, la vérité et la vie. Et alors, on sait où nous mène le chemin, au Père, et du coup, le début du chapitre, que votre cœur ne soit pas troublé, ça prend une toute autre dimension. Oui, ça nous est certainement arrivé, ou ça ne nous est pas arrivé, ça nous arrivera, je pense aux plus jeunes, d'avoir au fond ce désir, mais j'aurais bien voulu être sur terre quand le Seigneur était là. Oui, c'est une question, c'est une interrogation qu'on a en nous-mêmes, un désir qu'on aurait en nous-mêmes qui a son sens. Mais voilà, ce n'est pas. Mais ce n'est pas pour autant que nous avons moins. Au contraire, si nous repassons en revue les évangiles, nous voyons combien de choses les disciples qui étaient tout le temps avec le Seigneur ne comprenaient pas et n'en profitaient pas parce qu'ils ne les comprenaient pas. Alors que nous avons l'œuvre du Seigneur accomplie, tant de choses ont pris tout leur sens à la croix et ont pris tout leur sens par la propagation de l'Évangile après la croix. L'Esprit Saint qui a conduit pour qu'on ait les Épîtres, pour qu'on ait tout le Nouveau Testament écrit, qui nous permet de revenir sur ces choses-là. Dans un sens, nous avons beaucoup plus et surtout, nous avons le Seigneur qui veut être ce chemin, qui veut être pour nous faire découvrir pas après pas la vérité, nous tenir debout et nous animer de sa vie. La marche au désert, c'est la réalité qui est la nôtre aujourd'hui, avec un chemin, un désert qui n'est pas matériel, mais qui est une vie dans ce monde, avec aussi bien l'aspect de désert que nous pouvons trouver dans nos propres cœurs naturels, que l'aspect de désert que nous trouvons dans le monde, mais avec le secours, le soutien, la direction du Seigneur lui-même.
Il y a ce verset qui dit « C'est pourquoi je l'attirerai au désert et je lui parlerai au cœur que je recherchais. » Je pensais que c'était dans Osée, chapitre 4, mais apparemment c'est Osée 2. Je trouve qu'il nous parle assez bien, ce passage. Osée 2, verset 14. Ah, merci. J'ai un verset 4, verset 12. On va le lire. Oui. C'est pourquoi, voici moi, je l'attirerai et je l'amènerai au désert et je lui parlerai au cœur. Et de là, je lui donnerai des vignes et la vallée d'Accor pour une porte d'espérance. Et là, elle chantera comme dans les jours de sa jeunesse et comme au jour où elle monta du pays d'Égypte. Jacques l'a évoqué, le désert. Bon, personnellement, je ne le connais pas non plus. Mais le désert a ceci de particulier, c'est que, bon, il te met en face d'une immensité, mais on va dire d'une immensité dur, pénible. En contraste, on peut mettre les eaux de l'océan. Quand on est au rivage, quand on voit les eaux larges, on se dit waouh, on est impressionné, on est saisi par la grandeur de ce qui est en face et on réalise sa petitesse. C'est la même chose, mais l'inverse avec le désert. En plus dur, pourquoi ? Parce que la mer a ce côté de fraîcheur. La mer a ce côté où la vie bouillonne. On la sent, on la voit, on peut même voir des poissons, ainsi de suite. Dans le désert, il y a aussi une vie. Mais une vie qui ne bouillonne pas comme dans la mer, tout au moins au regard des yeux, s'il faut la chercher. On a tendance à penser qu'il n'y a pas de vie dans le désert, mais il y en a. Le désert aride, il y en a. Désert, quand je parle de désert, désert de, voilà, comme on le voit, de sable à perte de vue. Il y a de la vie. Et un autre des contrastes du désert, c'est que autant on peut atteindre des degrés très élevés, mais quand il fait frais, eh bien, donc le soir, ça peut basculer de l'autre côté, donc avec des vents frais facilement. Cela nous montre à suffisance que c'est un lieu où, au regard de la dureté des choses, on se pose des questions. On a envie d'avoir des réponses. Et Jacques l'a même dit, la question du disciple du Seigneur, ben, nous on ne voit pas le chemin. Et là, par oser ce prophète qui justement a connu, on peut dire, la direction de l'Éternel avec sa propre vie, eh bien, il lui montre que le désert pour le Seigneur, c'est un endroit privilégié pour rentrer en contact, pour enseigner, pour former. Et on l'a dit, Deutéronome, je ne sais pas si on l'a lu, mais je crois qu'on l'a évoqué, quand l'Éternel parle à Israël, eh bien, c'était pour lui faire du bien à la fin, chapitre 8. Il a fait traverser d'une dizaine de jours en 40 ans ce désert aride, il précise, mais pour lui faire du bien. Sa sandale ne s'est pas usée et il n'a pas été aussi brûlé. C'est pour dire que c'était vraiment la place où Dieu voulait que Israël se trouve. Mais pour ne pas, c'est le temps, pour ne pas insister sur cela, en lisant dans Matthieu au chapitre 3, Matthieu chapitre 3, on lit au verset 1er. Or, bon, verset 1 jusqu'au verset 4. Or, en ces jours-là, vient Jean le baptiseur, prêchant dans le désert de la Judée, et disant, repentez-vous, car le royaume des cieux s'est approché. Car c'est ici celui dont il a été parlé par Ésaïe le prophète, disant « Voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, faites droit ses sentiers. » Or Jean lui-même avait son vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour de ses reins, et sa nourriture était des sauterelles et du miel sauvage. Dans le désert, on ne s'encombre pas de ce que on pourrait avoir aujourd'hui comme confort, même en ce temps-là. On n'a pas ces domestiques pour barrer le soleil, certainement pas. En ce temps-là, il n'y avait pas de climatisation ou bien de chambre conditionnée, donc certainement que sa maison aussi n'était pas conditionnée en air. Souvent, c'est du strict minimum, une tente. On l'a vu un peu avec Jonas, une tente pour se cacher du soleil, pour ne pas être exposé directement aux rayons. Et pour Jean, il est dit, il était habillé de façon sobre. Vêtements de poils de chameau, une ceinture de cuir autour de ses reins. Parce que justement, il faut savoir marcher dans le désert, sinon on ira de chute en chute et ce n'est certainement pas plaisant. Ceux qui ont été dit souvent que vous avez du sable qui vous entre partout, par les oreilles, par la bouche, par les narines. Donc, ce n'est pas évident de pouvoir marcher si on n'est pas bien couvert. Mais en même temps, pas trop couvert, juste ce qu'il faut. C'est ce juste qu'il faut là que le désert nous impose. On a parlé justement que ce n'est pas un désert physique, mais c'est un désert justement dans le sens où le Seigneur n'étant pas dans ce monde, ayant été rejeté, n'ayant pas été reçu, ce monde n'a plus la beauté que le Créateur lui avait conférée au début. Eh bien, il ne fait que s'enfoncer. Mais en même temps, c'est ce désert où, à l'opposé de la ville ou des cités, où Jean invite les gens, où Jean le baptiseur invite ses citoyens à sortir du confort des villes, à sortir de la prétention des villes, à sortir de la sécurité que pourraient offrir ces villes barricadées. Et dans cette image des villes sécurisées, confortables, où on est en paix, on voit ce que le monde peut nous donner, mais tout ce que le monde nous donne, nous savons, ne vient pas de Dieu. Cette impression qu'on est en sécurité, cette impression qu'on est assis confortablement, cette impression qu'on est à l'abri du danger, on ne se soucie de rien, mangeons, buvons, car demain, eh bien, demain s'occupera de lui-même. Non. Jean les invite à sortir et à réaliser que le monde dans lequel nous sommes n'est pas aussi vrai ou idyllique que les cités construites peuvent nous en donner l'impression, mais que c'est vraiment un désert, un désert. Et Dieu veut nous parler dans ce désert. Dans notre vie de tous les jours aussi, il y a des moments où, et c'est même montré dans le langage courant, je passe par le désert, je passe par des moments de privation, je passe par des moments de difficultés, de doutes, des moments de grande tension, de grande pression. Mais c'est souvent ces moments-là que Dieu prépare pour nous parler au cœur. Et dans Osée qu'on a lu, il y a l'espérance qui vient après. Mais c'est toujours une espérance qui vient après que le désert ait produit du fruit. Parce que le désert doit produire du fruit, cette fois-ci de façon imagée. Le désert doit produire du fruit, pas sur le sol, mais dans nos cœurs. Et je considérais également un autre passage, cette fois-ci dans le livre du Cantique des Cantiques, où on voit un cortège qui monte, mais qui monte du désert. Au chapitre 3, au verset 6, qui est celle-ci qui monte du désert comme des colonnes de fumée, parfumées de myrrhe et d'encens et de toutes sortes de poudres des marchands. Dans la symbolique biblique, il nous est parlé dans ce livre des Cantiques, justement du travail que Dieu opérera dans les cœurs du résidu fidèle d'Israël, mais après avoir connu, pendant et après avoir connu justement la souffrance, après avoir connu l'épreuve, après avoir connu justement le désert. Et ici, eh bien, des colonnes de fumée, parfumées de myrrhe, signe justement de cette amertume du désert, du chemin, d'encens et justement encore ce mélange. Parce que nos cœurs seront travaillés par, pas seulement notre misère, mais surtout le fait de voir ce que cela a produit dans la vie du Seigneur, parce que ce sont justement de nos misères qu'il s'est occupé, de notre péché qu'il s'est chargé, eh bien on peut voir justement, on en est justement aussi soi-même imprégné. Et puis alors, une adoration, une louange, une reconnaissance éternelle peut monter de nos cœurs. Donc c'est toujours dans le désert que cela est produit. C'est pour cela que il y a certains croyants, d'ailleurs moi-même aussi, quelquefois on se dit, mais pourquoi l'épreuve, pourquoi le désert? Pourtant le psalmiste nous dit, bienheureux l'homme que tu éprouves. C'est toujours pour nous faire du bien que nous connaissons le désert. Et si nous entrons ou nous sommes dans le désert, réalisons que c'est Dieu qui permet que nous puissions y être, que notre Père nous fait passer justement dans ce désert pour nous faire du bien. Mais dans le désert, c'est aussi un lieu de rencontre. Descends vers ce chemin qui est désert, est-il dit dans Actes, où l'eunuque éthiopien sera rencontré. Et on a parlé justement du Seigneur qui disait, moi je suis le chemin et la vérité et la vie. Et je vais certainement, en lisant au chapitre 10 des Actes, on va pouvoir lire celui de Philippe, je crois qu'on a lu ce passage ce matin, au chapitre 10, au verset 38. Jésus qui était de Nazareth, comment Dieu l'a oint de l'Esprit Saint et de puissance, lui qui a passé de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux que le diable avait asservis à sa puissance. Il y a le Seigneur qui a connu le désert plus que nous, plus que personne. Lui le Créateur, lui l'homme obéissant. Dans un monde où il n'a pas reçu de fleurs, où il n'a pas reçu des faveurs de qui que ce soit, son chemin était ce chemin qui était resplendissant jusqu'à la croix où il a pleinement glorifié son Dieu et Père. Et il nous est dit, de lieu en lieu, lui, donc il était dans ce désert, en commençant son service avec Jean le Baptiste, jusqu'à cette croix de Golgotha, il n'a pas connu de répit. Mais c'était un chemin qui était toujours enrichissant pour les autres. D'abord pour son Père, enrichissant pour l'homme. Et c'est pour nous dire que peut-être que c'est bien qu'on soit dans le désert pour que le Seigneur seul s'exprime dans nos vies. Pour que la vie de l'Esprit que le Seigneur a placée dans nos vies, qui ne se nourrit pas justement des choses de ce monde, qui est même inimitié aux choses de ce monde, puisse mieux s'exprimer, mais un désert dans lequel on n'a pas de plaisir dans les choses de ce monde, un désert dans lequel on ne trouve d'objet que le Seigneur qui a marché lui-même sur ce chemin, et alors nous aussi, comme lui, nous pourrons marcher de lieu en lieu, faisant du bien, certainement pas comme lui l'a fait en guérissant des malades, mais faisant ce que lui, il veut que nous puissions faire, mais étant dans le désert. Donc, c'est encore pour nous un encouragement à ne pas mépriser le désert, à ne pas mépriser là où le Seigneur nous place, peut-être dans des difficultés, peut-être dans le manque, dans l'adversité, peut-être dans la nudité aussi. Voilà, l'incompréhension, l'adversité, c'est tout ça le désert. Mais le Seigneur y a marché et nous, nous pouvons aussi à sa suite marcher tout en étant plein de fruits à la gloire de son Dieu et Père.